Vous écoutez
RMC. RMC, 19h-20h, Bartoli Time, Jean-Christophe Drouet, Marion Bartoli.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans l'émission incontournable pour tous les passionnés de sport, c'est bien évidemment Bartoli Time. Vous le savez car vous êtes de plus en plus nombreux à vous nous écouter chaque dimanche soir et bien évidemment nous vous en remercions du fond du cœur. Un Bartoli Time où encore une fois nous allons plonger au cœur de l'actualité sportive du week-end pour vous retracer les meilleurs moments de celle-ci et vous proposer des entretiens exclusifs avec aujourd'hui Lou Jean Monod qui aura brillé à Nové Mesto tout comme Justine Brezaz-Boucher et Quentin Fillon-Maillet. Et puis un moment historique dans Bartoli Time, il fait sa première apparition, je vais dire immense bonsoir à Gilbert Bribois et puis bien évidemment à mon acolyte, celui qui est toujours un tout petit peu jaloux, c'est Jean-Christophe Drouet. Bonsoir messieurs.
Bonsoir Marion, bonsoir à tous. Bah oui, j'ai eu peur, je me suis dit comment ça.
J'avais oublié.
Mais oui, quand même, je me suis dit quand même Gilbert, c'est sympa,
mais
on est ensemble tous les dimanches, ma chère Marion. On va accueillir Gilbert dans quelques instants en direct de Brest, car vous l'avez compris, c'est la une de Bartoli Time. Brest-Marseille, c'est l'affiche ce soir à partir de 20h, c'est la grande soirée. Et le coup d'envoi, c'est à 20h45. Marion, juste une question. Marseille, oui. Tu trembles un peu ce soir ou pas?
Je commence à avoir peur et puis surtout je commence à énormément m'ennuyer en regardant les matchs de l'OM, mais ça c'est pas mon signe.
Oui.
Mais bon, nous allons discuter avec Gilles.
Exactement, à 19h20, Bartoli à la folie, magnifique équipe de France de biathlon qui pulvérise son record de médailles sur des mondiaux, 13 au total avec 6 titres. Et puis 19h40, Bartoli, Baston, Marion, tu veux t'inviter dans la polémique Raphaël Nadal après une interview en Espagne, on vous racontera tout ça et toi tu veux défendre l'ex numéro 1 mondial. Le 32-16 pour participer à cette émission, venir échanger avec Marion, supporter marseillais, c'est dans quelques instants, donc vraiment ne vous privez pas de cet instant. Et puis du basket, hein, c'est notre direct en cours actuellement, c'est la finale de la Leaders Cup avec Jérémy Donzé. Salut Jérémy.
Salut JC, salut Marion, rebonsoir à toutes et à tous. Finale entre Paris et Nanterre, finale inédite ici à cette arène Saint-Etienne Métropole de Saint-Chamond. Et c'est pour l'instant le Paris Basket qui fait la course en tête. 41-34, 7 points d'avance pour les coéquipiers de Nadir Hifi et de TJ Shore. Déjà 13 unités au compteur pour le meneur américain qui a été déterminant lors de la victoire. La grosse surprise d'hier soir, le succès face à l'AS Monaco, le leader du championnat de France. Nanterre qui a nettoyé l'autre partie de tableau en sortant les deux derniers finaliste de cette Leaders Cup, l'ASVEL et la JL Bourg en quart et en demi-finale. Nanterre qui est mené de 7 points ici à 4 minutes 30 de la pause par le Paris Basket. Ce sera forcément une première ce soir, JC, une première Leaders Cup, un premier titre dans l'histoire du Paris Basket en cas de victoire parisienne, et ce serait le seul trophée manquant pour Pascal Donadieu et Nanterre. Il rêve de le gagner évidemment pour sa dernière saison, le coach emblématique de Nanterre. Nanterre mené de 7 points à 4 minutes de la pause ici par le Paris Basket.
À tout à l'heure Jérémy, merci pour toutes ces informations. Marion, Bartoli Time, c'est tous les dimanches soirs de 19h à 20h et on vous offre toute l'actualité du week-end et forcément, on va parler de l'Olympique de Marseille. Tout de suite, peur sur l'OM.
Dans une période déjà troublée, difficile de tirer des conclusions après un tel match, si ce n'est que l'OM peut avoir des regrets.
Et c'est terminé dans cette rencontre entre le Shakhtar et l'OM, mais malgré tout, ça reste une déception.
Pourquoi je serais là si je n'y croyais pas? Je pense que je ne suis pas là pour perdre mon temps, c'est évident que j'y crois.
Très très déçu parce qu'on avait la victoire en main et là on ressort avec de la déception.
2-2, score final, les protégés de Gattuso enchaînent une sixième rencontre consécutive sans victoire.
On commence à rendre fou un petit peu de faire des efforts, de pouvoir mener au score et tout de suite derrière encaisser des buts.
Je suis soltanto adequando e parlo di 30 anni d'expérience.
J'ai l'impression que ce soir, c'est un peu la photographie de la saison. En 30 ans d'expérience, je n'ai jamais vu ça. On parlait il y a quelques jours de jouer à 3, à 4, à 5 derrière. Ce n'est pas la question. Quand on a encaissé ce genre de coup dur, c'est difficile mentalement.
RMC, la une de Bartoli Time.
Alors c'est l'affiche du soir et elle pourrait coûter cher. Brest-Marseille, coup d'envoi 20h45, la grande soirée avec Gilbert Bribois dès 20h en direct du stade Francis Leblay. Il était à Abidjan il y a quelques jours, il est à Brest ce soir, quelle vie quand même. Bonsoir Gilbert.
Salut à tous les deux et merci de m'accueillir dans cette superbe émission. Tenue de main de maître par Marion, hein, avec la petite tête de Jean-Christophe. Tu te rends pas compte Gilbert,
c'est un moment pour moi historique, t'imagines, je suis avec la Bible du foot, j'ai l'impression de... Oui. T'es monté en grade. Ah non, j'ai l'impression d'avoir gravi quelques échelons.
On a plus Gilbert à l'antenne, là. Ah oui. Alors, en tout cas, Gilbert, c'est un plaisir de te recevoir. Tu as à peu près fait toutes les émissions sur RMC. Il te manquait Bartoli Time. Et ouais. Heureusement, nous avons réparé cette anomalie ce soir.
Après Tom Cruise, Gilbert Bribois.
Alors, Brest, pour parler de la rencontre, Brest, vous le savez, est 5e et qui reçoit l'OM 8e. Les Marseillais qui restent sur 6 matchs sans victoire. Et les Marseillais qui sont à 8 points de la 4e
place. Oui, mais arrête de me répéter, on le sait que c'est une catastrophe. J'y sais, oui, s'il te plaît, n'en rajoute pas.
Avant de débattre, parce que je sais que vous voulez parler de Gennaro Gattuso, je voudrais vous faire écouter deux éléments. Déjà, le premier, c'était jeudi soir. L'entraîneur de Marseille était sonné hagard après le nul de son équipe face au Shakhtar Donetsk. Son équipe a mené deux fois dans cette rencontre et deux fois son équipe a été rejoint au score. Gennaro Gattuso sonné.
Io so soltanto che quando parlo di 30 anni d'esperienza.
J'ai l'impression que ce soir, c'est un peu la photographie de la saison. En 30 ans d'expérience, je n'ai jamais vu ça. On parlait il y a quelques jours de jouer à 3, à 4, à 5 derrière. Ce n'est pas la question. Quand on a encaissé ce genre de coup dur, c'est difficile mentalement. Ça ne m'est jamais arrivé en tant qu'entraîneur. Ça a pu m'arriver en tant que joueur. Mais en tant qu'entraîneur, je peux vous assurer que ça ne m'est jamais arrivé en plus de 400 matchs sur un banc de touche.
Aveu de faiblesse hein, de Gennaro Gattuso. Et hier, le coach de l'OM était de nouveau devant les médias. Et là, il a montré un peu plus l'écrou quand même.
Depuis mon arrivée, rien n'a changé. Moi, j'y crois encore plus. J'ai encore plus d'envie, de hargne, parce que quand on voit les performances, il n'y a aucune équipe qui nous a vraiment écrasés. Donc, je n'ai pas envie que le message soit qu'on ait baissé les bras. Il y a une difficulté au niveau mental, mais le staff et moi croyons vraiment en cette équipe. Notre saison est dans un grand moment. On y croit et on ne lâche rien.
Alors, Marion et Gilbert, pour l'instant, le bilan de Gattuso est catastrophique. En 15 matchs de Ligue 1, il n'a pris que 21 points. C'est le pire bilan depuis 10 ans pour un coach de l'OM. Notre débat, c'est est-ce qu'il joue sa place cette semaine avec ce match ce soir à Brest et puis le retour face au Shakhtar jeudi prochain. Marion, pour toi, c'est plutôt non.
Non. Non, parce qu'effectivement, bon, il reste 13 matchs avec celui de ce soir. Alors que ça n'est pas un entraîneur absolument exceptionnel, ça je suis complètement d'accord avec vous. Il a entraîné à l'AC Milan, il a entraîné à Naples, il a entraîné un petit peu à Valence aussi. Que pour moi, il est, en tout cas, il a une espèce de situation où on se dit que parce que ça a été un grand joueur, forcément que c'est un grand coach et qu'il profite de ça, je suis assez d'accord avec vous. Mais en revanche, on est quand même dans une situation où aujourd'hui à Marseille, si tu te retrouves à 13 matchs de la fin de Ligue 1 avec plus aucun entraîneur, t'as déjà viré Marcelinho en début d'année, je ne vois pas comment tu peux arriver à faire un turnover encore une fois sur l'entraîneur. Pour moi, ça me paraît impossible. Longoria est même pas sûr de rester pour la saison suivante. Donc tu te retrouves avec un club complètement exsangue et tout à reconstruire. En revanche, qu'il y ait des problèmes internes qui soient extrêmement importants, qu'effectivement, et il l'a dit aussi dans cette conférence de presse, qu'il y a un problème de peur dans cette équipe. On a l'impression que quand ils mènent, c'est une espèce de panique générale. Enfin, le but qu'ils prennent contre le Shakhtar, c'est pas possible. Pas marquer à la 92e et encaisser derrière deux minutes. C'est peut-être deux minutes à tenir le temps. Si tu n'arrives même pas à tenir deux minutes le temps, tu as l'impression qu'ils paniquent complètement. Donc là-dessus, je suis d'accord avec vous qu'effectivement, les résultats sont catastrophiques, que les niveaux n'est pas bon. Après, pour prendre sa défense, quand effectivement, tu transfères le meilleur latéral gauche que tu as eu, parce que lorsqu'il jouait en système 3-5-2 avec en piston Klaus et Lodi, ça fonctionnait quand même beaucoup mieux que ce qui se passe actuellement. Donc déjà tu vends un de tes meilleurs joueurs. Tu sais très bien quand tu fais ton effectif au début de saison qu'il va y avoir énormément de joueurs qui vont partir à la CAN. Tu as quasiment 4 à 5 titulaires incontestables qui sont partis pendant 3 semaines voire 4 semaines. Quand tu es Pablo Longoria, tu peux pas te dire que tu n'as pas une part de responsabilité dans ce qui se passe actuellement. Donc pour moi, c'est une responsabilité commune, mais je vois pas pourquoi. Pourquoi virer Gattuso maintenant? Pour faire venir qui déjà? Et pour reprendre quoi? De toute façon, ça ne va rien changer à ce qui est en train de se passer sur toute la saison d'ailleurs. C'est même pas que là sur les derniers mois. Oh. C'était depuis le début où c'est catastrophique.
Ok, donc peu importe ce qui se passe, il faut persévérer et continuer avec Gennaro Gattuso. Est-ce qu'il joue sa semaine, le coach italien? Pour toi, Gilbert, un peu quand même.
Oui, c'est l'OM. C'est-à-dire que l'OM, tout est irrationnel. Enfin, je peux vous rappeler les passés récents de l'OM. L'OM a fait des fois des saisons avec 3 présidents différents. Pourquoi pas 3 entraîneurs? Je veux dire, bon. Ce qui va se passer ce soir va être, à mon avis, déterminant. Et la Coupe d'Europe également jeudi. C'est-à-dire que si ce soir, l'OM perd, je pense que le match de Coupe d'Europe face à Donetsk pourrait être décisif pour Gattuso. Ça commence à se tendre en interne entre Gattuso et les dirigeants. On entend un entraîneur qui a complètement... Moi, j'ai l'impression qu'il a lâché la rampe. Ça me rappelle Laurent Blanc, rappelez-vous, avant qu'il parte de Lyon, quand il disait « De toute façon, il faut changer le coach, moi, je sais plus quoi faire ». Gattuso qui dit ça, le Gattuso le bâton, ouais, ouais. Le mec qui a la grinta au bord du terrain là. On a l'impression que ce gars-là, pour qu'il baisse les bras, faut vraiment qu'il prenne des coups dans la tronche. Et là, il nous dit en 30 ans, j'ai jamais vu ça, j'ai pas de solution. Je veux dire, c'est pas un aveu de faiblesse incroyable.
Je pense, Gilbert, c'est une accumulation. Quand t'as Vitinha qui a un but vide devant lui, que tu finis à 9 contre Monaco, que t'arrives pas à gagner, que là tu mènes à l'extérieur deux fois, que tu te fais rattraper à 2 minutes de la fin, quand effectivement t'as son palmarès en tant que joueur et que t'as connu un niveau qui a été exceptionnellement élevé, tu te dis mais c'est pas possible quoi. C'est quasi comme s'il le faisait exprès. Enfin, dans ses réclarations, quand je lis entre les lignes, je lis ça, tu vois. Mais en quoi c'est la faute vraiment de l'entraîneur? Moi, je pense que c'est plus lui qui peut claquer la porte. Que la direction qui va vraiment le virer, tu vois.
C'est possible aussi. Juste, il y a un truc moi que je comprends aussi dans ces déclarations, c'est qu'en fait, il estime qu'il a un effectif qui est faible.
Voilà. Oui, faut être clair. Hein.
Il estime qu'il a un effectif qui est pas au niveau. Alors effectivement, bon, la fameuse occasion de Vitinha, c'est un peu le symbole de tout ça. Je pense qu'il s'est aussi dit assez clairement, mais comment c'est possible qu'il y ait la moitié de l'équipe qui parte à la Coupe d'Afrique et que donc ça n'a pas été anticipé. Je veux dire, on savait bien qu'il y avait la Coupe d'Afrique quand le recrutement a été fait l'été dernier. Donc ça paraît totalement fou. Donc effectivement, Gattuso, il s'est dit, mais attends, mais en fait, où est-ce que je suis tombé? Peut-être que j'ai pas bien réalisé ou que je me suis lancé un peu trop tôt dans ce truc-là. Faut quand même se rappeler que Gattuso, au départ, il devait aller à Lyon. Hein.
Exactement.
Et que finalement, il a atterri à Marseille où il n'était pas le premier choix. Donc, moi, j'ai l'impression qu'il y a un truc dès le début. En fait, il y a une sorte de mal donne avec lui. Alors après, le personnage colle à l'OM parce que c'est un mec un peu voilà truculent italien. Mais faire des grands gestes avec les bras et gueuler au bord de la touche, ça suffit pas pour gagner les matchs, quoi. Hein. Donc, effectivement, peut claquer la porte. Et il n'est pas non plus exclu que demain, dans la tête de Longoria, ils disent bah tiens, moi-même, je suis fragilisé. Moi-même, les supporters commencent à se poser des questions sur ma gestion. Et ben tiens. Je vais allumer un contre-feu, on vire le coach et puis on va relancer un truc pour la fin de la saison. Je veux dire, à Marseille, tout est possible. Donc, moi, je n'exclus pas que les deux matchs qui arrivent soient les derniers pour lui. En fonction du résultat, bien sûr.
Non, mais là-dessus, Gilbert, on est complètement d'accord. Mais après, quand tu vois la gestion du cas de Klose, déjà, on pourrait refaire toute la saison. Tout n'a aucun sens, en fait, dans ce qu'ils font depuis le début. J'ai l'impression, pour moi, quand tu es dans l'analyse de ce club, et ça fait quand même plusieurs années vraiment que je les suis de très près, que là, Pablo Longoria, il est complètement perdu, qu'il n'arrive plus à prendre une décision qui est rationnelle et qui a du sens. Tu vois qu'effectivement, alors on se foutait de la gueule de Lyon, mais regarde avec le mercato hivernal qu'ils font. Alors ok, ils ont ouvert les caisses, ils ont mis 60 millions, mais on voit très bien que l'équipe, elle est en train de repartir de l'avant et qu'il y a quelque chose qui est en train de se créer en termes de niveau de jeu. Au moins.
Oui, toi, tu trouves des circonstances atténuantes. Tu trouves des circonstances atténuantes à Gennaro Gattuso.
T'as vu le banc qu'il y avait pendant la CAN? T'as vu les joueurs qui jouaient sur le terrain?
Mais là, il n'y a plus la CAN.
De l'Olympique de Marseille.
L'Olympique de Marseille, là, on trouvait ça.
Tu peux pas avec un banc pareil. Non, mais tu peux pas avoir un banc pareil. C'est pas possible. Moi, je suis complètement d'accord avec Gilbert. Je l'ai dit dans mon intro. Le recrutement et la préparation, on savait très bien qu'il y avait la CAN. La préparation de cette saison. Je sais pas qui vraiment a pris les décisions de faire ce recrutement. Alors ok, maintenant ils ont pris Benatia pour essayer, je sais pas, d'avoir un peu plus d'idées. Mais c'est catastrophique. T'as Harry, t'as Mbemba, t'as Sarr, t'as Unai, t'as Ndiaye qui partent. T'imagines, t'as quasiment la moitié de tes joueurs.
Marion et Gilbert, restez, on continue et on poursuit le débat sur le Gennaro Gattuso et sur ce match ce soir, Brest-Marseille, c'est à partir de 20h la grande soirée avec Gilbert Bribois, le coup d'envoi à 20h45. Là, il nous appelle supporter de l'OM. Il veut discuter avec vous. Salut.
Salut.
Merci d'être avec nous, avec Marion Bartoli, avec Gilbert Bribois. Est-ce que Gennaro Gattuso joue sa place cette semaine, selon toi?
Je pense que moi, je suis totalement d'accord avec l'analyse de Marion sur tout ce qu'elle vient de dire. Je pense que j'ai pas du tout beaucoup de choses à rajouter. Bien sûr qu'on peut pas non plus lui dire qu'il est pas du tout coupable sur la crise qu'on a vécue, mais il est très 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 loin d'être le premier, parce que quand je vois la gestion de notre soi-disant génie Pablo qu'il a faite depuis on va dire un an, c'est la faute, elle vient du président et de comment dirais-je de ma courte quoi.
Oui, mais une fois qu'on a dit ça, je suis d'accord avec toi, mais je redonne la main à Gilbert, reste avec nous évidemment là, mais une fois qu'on a dit ça Gilbert, une fois qu'on a dit que c'est la faute du recrutement, on sait comment ça se passe dans un club, il faut trouver un responsable, il a l'air tout désigné quand même.
Exactement, c'est ce que je disais tout à l'heure.
Bien sûr.
Et moi, effectivement, Gattuso sera le fusible. Et puis Marion a raison quand elle parle de clause. Il y a Lodi, vous avez oublié. Lodi, titulaire,
quand il
parle
de saison. Je te l'ai dit, Lodi, c'est ton meilleur latéral gauche, tu le vends en Arabie Saoudite.
Non, mais vous avez vu l'histoire quand même. Ils ont une offre d'Arabie Saoudite. Le club dit oulala, faut surtout pas qu'il le sache, parce que s'il le sait, bon, évidemment, le joueur l'apprend par son agent. Le joueur dit écoutez, on m'offre 4 fois plus en Arabie Saoudite, donc merci, ciao. Gattuso, il hallucine. Il dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc moi, en fait, là, j'ai mon titulaire qui va être obligé de partir parce que il a une offre ailleurs au milieu de saison comme ça, c'est n'importe quoi, c'est mal géré. Klaus, tu as raison, Marion, on comprend pas ce qui se passe. Moi, ce que je comprends, c'est qu'il a une valeur marchande et que donc le vendre maintenant, c'était financièrement une bonne affaire pour l'OM. Donc en gros, on a fait passer les messages comme quoi il était sur le marché. Voilà, en utilisant des prêts.
Oui, mais le problème, Gilbert, c'est qu'à force de te déforcer complètement, tu vas plus avoir d'équipe.
Enfin, Lodi, plus l'affaire Klaus, plus la gestion des mecs à la canne, plus le manque de leader sur le terrain, plus la qualité technique générale, c'est sûr que la situation c'est pas très glorieuse.
Plus Rongier qui s'est blessé avec une blessure de très longue durée. Voilà.
Bon, ça, c'est pas forcément la faute des dirigeants.
Non, mais tu t'accumules.
Bien sûr, mais là, justement, on parlait de Gennaro Gattuso et Gilbert nous disait tout à l'heure, il y a Maldon. Est-ce que tu as aussi la sensation d'avoir un peu été trompé par la marchandise? C'est vrai que Gennaro Gattuso, on s'attendait pas forcément à ce type d'entraîneur. Peut-être qu'on ne l'attendait pas aussi calme. Est-ce que c'est ton avis?
Non, moi je dirais pas que je l'attendais pas comme ça, parce que je pense qu'il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a, avec les joueurs qu'il a, avec toute la réussite qu'il nous fait aussi, parce qu'il y a eu beaucoup de matchs qui sont joués à rien du tout. Je me souviens du match contre Metz. Unai, il en a 3, il doit faire mieux. Vitinha, pareil. Il y a eu beaucoup de matchs aussi comme ça. Contre Nice, Aubameyang, il rate une occasion toute faite. Juste après cette occasion, il y a but contre nous. Il y a eu tellement de matchs qui sont joués à rien que parfois, j'ai du mal à tomber que sur l'entraîneur. Il y a le mental des joueurs qui est au bout. Je trouve qu'ils ont beaucoup de mal. Je parle même pas de caractère. Je parle plutôt dans le mental de ces joueurs-là. Ils manquent beaucoup de confiance. Je pense qu'il leur faut une victoire avec beaucoup de buts, 2-0, quelque chose comme ça, pour qu'ils la retrouvent.
Bah, c'est vrai que pour se relancer, Marion, là, c'est vrai qu'il faut, il faut un déclic, il faut quelque chose. Et à Brest, pour le coup, une belle équipe de notre championnat, oui, Marion.
Oui, mais de toute façon, si tu veux, quand tu fais un recrutement pour l'Olympique de Marseille, il faut avoir des joueurs qui sont capables de porter ce maillot. On sait très bien qu'à Marseille, effectivement, c'est pas un club comme les autres et que tout est dans l'irrationnel. Mais quand tu es capable de vendre un Guendouzi, tu vends Guendouzi, qu'aujourd'hui, un des meilleurs milieux de Serie A, qui était élu homme du match contre le Bayern, et tu vends Guendouzi. Je n'arrive pas à comprendre comment ce club fonctionne. J'ai l'impression que dès qu'il y a un très bon joueur et qu'il va avoir une valeur marchande, tu le vends. Faire de l'argent. Mais tu peux pas gérer ton club comme ça, c'est pas possible. On n'est pas en train de faire c'est pas une PME, c'est pas une entreprise en disant j'ai un truc de valeur donc je le vends. Bon après je me déforce, bon c'est pas très grave. Je suis milieu de classement, c'est pas très grave. Tu peux pas gérer ton club comme ça, c'est pas possible.
Gilbert, un dernier mot avec toi, peut-être toi qui es en direct du stade Francis Leblé, tu prendras l'antenne à partir de 20h. Évidemment, j'imagine que le stade est plutôt vide, le stade Francis Leblé pour l'instant avant cette rencontre Brest-Marseille. Présente-nous un petit peu cette soirée, parce que c'est vrai qu'elle est importante aussi pour les Brestois, parce qu'en cas de victoire, ils pourraient repasser deuxième, c'est quand même pas rien. Et puis l'Olympique de Marseille, on va peut-être savoir ce soir s'ils sont dans le coup pour jouer et pour être quatrième, en tout cas pour tenter peut-être la Ligue des Champions, même si on répète ça depuis le début de la saison.
Exactement, en fait faut être tout à fait clair, hein. Brest est le grand favori de ce match. Quand on a vu les performances récentes des Brestois, rappelez-vous le match au Parc des Princes par exemple, je parle dessus en championnat, pas en Coupe de France, où ils étaient au bord de l'exploit. C'est une super équipe avec des joueurs qui éclatent cette année, Lesmelou, Del Castillo et tous les autres, et l'OM en plein doute. Je veux dire, l'OM n'a pas été capable de battre Metz il y a une semaine en Ligue 1, et là ils viennent sur le terrain d'une des meilleures équipes du championnat, donc Brest de très loin favori de ce match. Oui, vas-y Marion.
La dernière victoire en championnat de l'OM, c'est le 17 décembre contre Clermont. Donc, je peux te dire, tu peux remonter. Hein.
Voilà. Donc, effectivement, je pense que si l'OM ne perd pas ce soir, les Marseillais seront bien contents. Et quant aux Brestois, je pense que vu la dynamique marseillaise, je pense que eux, autre chose qu'une victoire, les décevraient énormément. Et puis, moi, je suis très content d'être à Brest parce que c'est le seul club dont le président est lucide. Il veut l'arrêt du VAR.
Ah oui.
Il l'a dit, monsieur Le Saint. Donc,
bien sûr.
Cet homme-là a tout compris avant les autres.
Un homme de valeur.
Bravo. Bravo. Le président Le Saint.
D'ailleurs, je te garde deux secondes parce que tu me lances sur le sujet. Je sais que tu aimes bien parler du VAR. On va d'ailleurs vous le retrouver, hein, parce que vendredi soir, je demande à la régie de peut-être nous caler ce son. Vendredi soir, il y a Jean-Pierre Hivert qui a poussé un coup de gueule contre l'arbitre, oui, de la rencontre Lyon-Nice. C'était Clément Turpin. Et le syndicat des arbitres qui a réagi aujourd'hui en défendant Clément Turpin, en disant que les arbitres, non, ils n'étaient pas arrogants. Marion, quel est ton regard là-dessus? Parce que c'est vrai qu'à Brest, on ne veut plus du VAR, et il s'est toujours parlé sur les pelouses de Ligue 1. Oui, vas-y, donne-nous ton avis.
Tu connais l'histoire de Turpin
avec l'OM. Avant que tu donnes ton avis, ça y est, on a retrouvé Jean-Pierre Hivert, on va l'écouter. C'était vendredi soir sur l'arbitrage. Il n'y est pas allé avec le dos de la cuillère, comme on dit.
Vous savez, je n'interviens jamais et je ne parle jamais sur l'arbitrage en fin de match. Ça fait 13 ans que je suis président, je crois que ça ne m'est jamais arrivé. Encore une fois, être arbitre, c'est très difficile. Qu'il fasse des erreurs, c'est normal. Si je prenais un sifflet d'arbitre, je ferais des erreurs, et on fait tous des erreurs. Mais à un moment, ça s'accumule. Ça fait plusieurs matchs. C'est pas ce match, c'est pas le match du week-end dernier. Ça fait beaucoup de matchs où on a beaucoup d'erreurs d'arbitrage. Alors, qu'un arbitre se trompe, encore une fois, c'est tout à fait normal. Mais il y a la VAR. À quoi elle sert ?
Marion.
Alors, Gilbert, à quoi elle sert la VAR ?
Si vous me lancez là-dessus, on en a pour 30 minutes. Hein. Mais là, ce que dit Hivert est symptomatique. Parce qu'en fait, s'il n'y avait pas la VAR, il ne viendrait pas râler. Parce que l'arbitre, comme avant, ferait partie du jeu, comme un attaquant qui rate 3 tirs et qui tire à côté. L'arbitre peut se tromper, l'arbitre peut avoir des bons soirs, des mauvais soirs, et puis on passe à autre chose, en fait. Là, le fait qu'il y ait la VAR, ça ajoute à la frustration générale de tout le monde, parce qu'on se dit, ouais, mais attends, le gars s'est trompé, et en plus, il y a le VAR, et en plus, avec le VAR,
il prend
la mauvaise décision. Donc, ça ne fait qu'ajouter de la confusion, ajouter de la colère, ajouter de l'énervement, et puis en plus, on constate que je vais vous refaire l'histoire, mais vous savez très bien qu'une image n'est jamais la vérité. Vous savez très bien que quand vous regardez un match de foot, vous regardez pas un match, mais vous regardez le match que le réalisateur veut bien vous montrer, etc., etc. Donc cet outil, en fait, est en train de véroler le football complètement. Donc au bout d'un moment, les acteurs du foot s'en rendent compte. On a parlé du président de Brest, il n'est pas très médiatique, Monsieur Le Saint. Enfin, Gary Lineker en Angleterre, qui est le consultant numéro 1, explique émission après émission qu'il faut tout arrêter parce qu'on court à la catastrophe. Donc j'ai encore Eden Hazard l'a dit il y a quelques jours là. Donc voilà, beaucoup de monde rejoint le camp du bien ces derniers temps.
Le camp du bien, le camp de l'after. Le camp de Gilbert Bribois, vous l'avez bien compris. Et c'est vrai, et Marion, je sais que tu voulais en parler aussi ce soir. Pour remettre en contexte, en fait, il y a quelques actions litigieuses et donc de ne pas aller voir la VAR,
ça
a énervé Jean-Pierre Hivert. Et il faut savoir que le match d'avant face à Monaco, c'était Clément Turpin qui était l'arbitre vidéo. Et là, la VAR a été revue, et ça a permis l'expulsion de Dante, le joueur de l'OGC Nice. Donc en fait, il se dit, il y a deux poids deux mesures et Clément Turpin, exactement, il nous en veut un petit peu. C'était un petit peu la sensation.
C'est bien ce que j'ai lu entre les lignes aussi. Mais en fait, le ressenti avec Monsieur Turpin, c'est qu'on a l'impression qu'on peut plus lui parler, qu'il se sent quasi intouchable et qu'il est devenu quelqu'un avec un ego qui est totalement surdimensionné. Donc, je pense la réelle frustration, elle vient de là. C'est à la limite, les présidents, les joueurs avaient la sensation de pouvoir s'expliquer avec l'arbitre pourquoi il va pas prendre le VAR. Pourquoi il va pas voir la VAR, pardon. Pourquoi il prend cette décision avec une explication claire, nette et précise, et quelqu'un avec qui on peut discuter tranquillement. Je pense qu'il y a un peu moins de frustration, mais là, la frustration du président Rivière, moi, je la comprends totalement. Effectivement, quand on voit le match, on a quand même largement l'impression qu'ils sont roulés dans la farine. Alors après, il y a une direction technique de l'arbitrage. Ils prendront certainement les décisions qu'il faut prendre, mais Je rejoins assez Gilbert. C'est vrai que ces coupures aussi systématiques par la VAR, où ça prend de plus en plus de temps. J'ai écouté une émission la dernière fois sur la Première Ligue, où aussi ils pensent vraiment à arrêter ce problème, parce que ça, même pour les diffuseurs, c'est très problématique, parce que ça donne des temps de match qui sont de plus en plus à rallonge, avec des coupures où les gens finissent par changer de chaîne, parce que voilà, c'est beaucoup trop long. Je pense qu'il y a un réel souci, et il va falloir y remédier.
Bon, vous aimez l'after, il faut évidemment écouter Gilbert Bribois et RMC, et vous n'aimez
l'after
pas le VAR,
l'after est numéro 1 des podcasts.
Écoutez, l'after.
Bravo Gilbert.
Merci
d'ailleurs.
Beaucoup Gilbert d'avoir été avec
Merci
nous. On
tous.
Se retrouve à partir de 20h en direct du stade Francis Leblay pour la rencontre ce soir. Brest-Marseille, c'est donc à 20h45 à suivre en direct en intégralité sur RMC. Restez avec nous, le coup de cœur de Marion, c'est le biathlon. Évidemment, un week-end encore sensationnel avec une médaille de bronze lors de la Mastart pour Lou Jean Monod qui sera notre invité. On vous donnera tous les résultats évidemment. À tout de suite sur RMC et avec Marion Bartoli.
RMC Bartoli Time, Jean-Christophe Drouet,
Marion Bartoli. 19h30, de retour dans Bartoli Time sur RMC. Tout de suite, s'il te plaît, JC, déroule-moi le programme.
Dans 10 minutes, restez bien avec nous. Bartoli Baston, tu veux t'inviter dans un débat,
oui.
Marion, car cette semaine, Rafael Nadal a fait la polémique en Espagne après une interview donnée à une chaîne de télévision espagnole. On vous explique tout ça. En tout cas, tu veux défendre Rafael Nadal. Et puis, à partir de 20h, vous le savez, Brest-Marseille, la grande soirée avec Gilbert Bribois en direct. Toute l'after est en direct du stade Francis Leblay. Mais tout de suite, Marion, le coup de cœur.
Justine Brezaz-Boucher qui a les mains, les bras dans les airs, elle félicite, elle se félicite et elle sourit au public parce qu'elle vient juste à l'instant de passer la ligne d'arrivée. Justine Brezaz-Boucher qui n'en revient presque pas quand on voit sa tête. Elle est championne du monde de la Master, son premier titre individuel sur ces mondiaux de Nové Mesto en République tchèque. Justine Brezaz-Boucher qui nous a fait une course majestueuse, une course parfaite, phénoménale. Justine Brezaz-Boucher, phénoménale aussi cette équipe de France parce que Lou Jean Monod va aller chercher la médaille de bronze sur cette Master. Lou Jean Monod, elle aussi, grand sourire pour la fin de ses championnats du monde pour elle. Et donc la France va aller chercher donc sur cette Master la médaille d'or, la médaille de bronze et Julia Simon qui en finit à l'instant.
RMC Bartoli à la folie.
Et la quatrième place pour Julia Simon, la troisième place donc pour Lou Jean Monod qui sera notre invité dans quelques instants en direct de République Tchèque à Nové Mesto. Léna Marjac, notre envoyée spéciale. Bonsoir Léna.
Bonsoir JC, bonsoir Marion, bonsoir à tous.
Il y a eu, c'est vrai, une journée spectaculaire pour l'équipe de France, mais ça dure depuis plusieurs jours.
Ah oui. Ah bah ça dure même depuis le début de ces mondiaux, hein. Tout simplement, on finit avec 13 médailles, c'est un record absolu. En 2016 au championnat du monde d'Oslo, on en avait seulement 11, aujourd'hui 13. Cette équipe de France est fabuleuse et cette équipe de France nous l'a fait rêver depuis le début et ça a fini encore en fanfare aujourd'hui avec ces deux masters. Alors d'abord la master féminine, on a entendu il y a quelques instants les résultats. Justine Brezaz-Boucher qui nous réalise une course tout simplement exceptionnelle, un sans faute au tir et sur les skis, depuis le début de ces mondiaux, Justine va extrêmement vite et ça s'est vu encore aujourd'hui. Elle a creusé très rapidement l'écart sur cette Master. Et puis aussi la très belle médaille de bronze de Lou Jean Monod qu'on entendra dans quelques instants. Et puis Julia Simon, donc quatrième. Julia Simon qui finit avec 4 médailles d'or autour du cou. Mais aujourd'hui, c'était la course de trop, elle nous a dit, parce que mentalement usée. Physiquement, ça allait, mais mentalement, c'était très dur parce que y a des émotions aussi depuis le début de ces mondiaux. Et même pour les athlètes, elles sont humaines, toutes ces filles. Et donc aujourd'hui ça a été compliqué pour Julia. Et puis la petite touche aussi finale, c'est la Master's masculine avec la belle troisième place, la belle médaille de bronze de Quentin Fillon-Maillet. Et ça fait plaisir parce que c'est le premier podium individuel de la saison pour l'équipe de France masculine.
Exactement, et c'est assez rare pour le souligner, l'équipe de France masculine qui perf moins cette saison. Heureusement il y a les filles, mais au moins il y a eu cette troisième place de Quentin Fillon-Maillet. 13 médailles au total, record pulvérisé qui date de 2016 pour notre équipe de France. 13 médailles lors de ces championnats du monde. Avant d'accueillir Lou Jean Monod, je vous propose d'écouter Justine Brezaz-Boucher après cette médaille d'or, championne du monde de la Master, 2 ans jour pour jour après sa médaille d'or olympique sur le même format à Pékin. Justine Brezaz-Boucher.
Le titre, il représente beaucoup de choses forcément sur cette course très particulière qu'est la Master. Donc je suis vraiment heureuse de finir ce gros événement qui a été un succès phénoménal pour l'équipe de France. Et puis voilà, je pense qu'une hymne nationale, j'ai pris conscience des paroles et je me suis dit waouh, c'est quand même quelque chose d'énorme. Et voilà pourquoi les larmes sont montées.
13 médailles au total, elle a réussi à en décrocher 4. Elle s'appelle Lou Jean Monod, elle a un très joli prénom, c'est pas juste parce que ma fille s'appelle comme ça, mais Lou Jean Monod, c'est très joli. Lou, bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir Lou, alors tout d'abord félicitations et merci infiniment d'avoir accepté mon invitation dans Bartoli Time. Nové Mesto, je pense tu en garderas de sublimes souvenirs après l'or en relais mixte avec Quentin Fillon-Maillet et une médaille en individuel en Masters aujourd'hui. C'est comme un rêve, non, pour toi?
Oui, vraiment, c'était fou. Ça s'est tellement bien enchaîné, toutes les courses étaient super à vivre, que ce soit moi personnellement ou alors avec l'équipe, c'était fou.
C'était fou, Lou. Vas-y, Marion.
Oui, c'est ta deuxième saison seulement au World Cup et ta première saison avec un tel niveau, des résultats absolument fantastiques. Tu la vis comment cette saison?
Je profite et puis je laisse un peu enchaîner les choses. Je profite de faire du biathlon que j'aime, que j'arrive à faire naturellement, on va dire. Et puis, oui, je profite simplement, je me pose pas trop de questions et je laisse aller.
Tu laisses aller. Lou Jean Monod est avec nous en direct sur RMC. Je le disais, 4 médailles pour toi, 2 en or, c'était en équipe, 2 en bronze en individuel. Est-ce qu'il y a des choses à rectifier? Est-ce que tu es pleinement satisfaite ou, allez, il y a un petit regret quand même sur l'une de ces courses?
Bah, il y en a toujours un petit peu. J'étais déjà très déçue de ma poursuite la semaine dernière. Je me suis laissée avoir par le stress et autant derrière la carabine ça s'est pas trop vu, autant sur les skis j'arrivais vraiment pas à me détendre, à délier avoir un ski naturel. Et c'est mon plus gros regret parce que partir troisième sur une poursuite de championne du monde, ça arrive quand même pas souvent. Et donc je suis déçue de pas avoir très, très bien réagi là-dessus. Un petit regret sur l'individuel où je me suis fait malmener sur le tir, j'en sors qu'une, mais chaque tir c'était je l'abordais comme une opportunité de rater une balle, donc c'était pas exactement l'état d'esprit que j'aurais voulu avoir sur cette course là après toutes les courses j'aurais vraiment pas pu faire mieux, et c'est pour ça que ces 4 médailles elles ont énormément de valeur.
Alors moi j'aime beaucoup cette histoire, Lou, tes parents t'avaient offert une carabine pour tes 14 ans, on sait que tu t'en sépares plus depuis, c'est avec celle-là que tu as signé ta 3e place aujourd'hui?
Alors elle a beaucoup évolué, j'ai changé donc de cross, c'est la partie bois, je l'ai changé donc il y a 3 ans, et puis cette année j'ai été obligée de changer le canon parce que l'autre commençait à être usé, il avait 10 ans, donc j'ai dû le changer cette année, mais le mécanisme, on va dire la partie culasse, détente et compagnie, c'est celle d'origine, c'est celle que j'ai depuis mes 14 ans, ouais.
Ben voilà, comme ça au moins il y a aussi une symbolique derrière tout ça, une histoire familiale. Lou Jean Monod est avec nous en direct sur RMC avec Marion Bartoli pour débriefer de ces mondiaux, hein, car c'était le dernier jour. Je le disais, 13 médailles au total, l'équipe de France féminine qui est très impressionnante avec au moins une médaille sur chaque course, 6 titres sur les 7 courses. Est-ce qu'il y a une explication rationnelle, Lou?
Je pense qu'il y en a plusieurs petites. Après, s'il y avait vraiment une solution évidente, on la saurait et puis tout le monde essaierait de l'utiliser. Je pense que c'est surtout lié au fait que l'équipe de France féminine est ultra dense, qu'il y a beaucoup, tout le staff a fait beaucoup de boulot, voire même du boulot parfait. Tout le monde était à sa place et au top de son top, et je pense que ça a permis de faire ces mondiaux-là.
Mais j'ai une question de la plus haute importance, mais n'aie pas peur. Ah, est-ce qu'à Nové Mesto, en République tchèque, on n'en a pas un peu marre d'entendre la Marseillaise?
Oui.
Peut-être que les Tchèques nous aiment plus. C'est possible. En tout cas, non, j'ai vraiment adoré. Pour le coup, les Tchèques sont vraiment très, très accueillants, fair play. Ils encouragent vraiment beaucoup de monde. C'est pas le cas de tous les pays. C'est vraiment les plus fair play que j'ai pu voir.
Bon, ta partenaire, Justine Brézaboucher, je le disais, a remporté elle. Elle est devenue championne du monde de la Mastart. Elle a réalisé un 20 sur 20. On a l'impression, vu de l'écran, hein, mais toi tu étais sur la piste, mais vu de l'écran, on a l'impression qu'elle était injouable. Est-ce que c'est également ton regard, Lou?
Ben, j'ai eu l'opportunité de voir son dernier tir parce qu'au moment où elle blanchit sa 5e balle, moi je commençais à arriver sur le pas de tir et il y a des écrans géants à peu près partout, donc j'ai pas pu le rater. Et ça m'a fait vraiment. Je me suis vraiment dit, wow, elle a vraiment maîtrisé de A à Z. Déjà sur les skis, on l'avait vu depuis le début de la semaine, elle était intouchable, mais là avec le 20 sur 20, c'était magnifique à voir. Enfin, même de loin, un peu en train de galérer, c'était trop beau à voir.
Alors Lou, la saison n'est pas finie. Quels sont tes objectifs pour le reste de cette saison?
Bah là, vraiment, pour l'instant, je suis très fatiguée, donc j'ai vraiment hâte de dormir un petit peu. Je vais faire 3-4 jours de repos à la maison. Après, je sais pas trop comment je vais me débrouiller pour aller trouver de la neige pour m'entraîner un petit peu. Et puis, on repart direct mardi prochain, du coup, à Oslo. Et je vais la jouer comme je l'ai joué depuis le début de la saison, très apprendre les courses par course et puis pas trop me concentrer sur le résultat, mais plus sur faire un beau biathlon le mieux que je peux, et puis les résultats viendront.
Mais j'imagine, Lou, que tu connais parfaitement Marion Bartoli, et elle se fixe sur le résultat, et j'imagine qu'en creux elle parlait du globe de cristal parce que tu es quand même dans la course.
Et oui.
Est-ce que c'est quelque chose que tu ambitionnes ou non? On va être réaliste et on va pas aller prétendre ça.
Ouais, j'y pense un petit peu, mais j'avoue qu'avec mes 2 courses que j'avais ratées en début de saison, j'avais un peu, j'avais complètement même abandonné l'idée. Je me suis dit faut avec des points en moins, des courses à 0 points, pour moi c'est impossible. Là, c'est vrai qu'une 6e place, je suis encore dans le match, mais faut pas oublier que devant, ça reste le top du top du top, et aller chercher Justine, Julia, Tendrevol et puis Pivitozzi, ça va demander des courses à 100% quasiment sur toutes les courses de fin de saison, plus un petit peu de chance à un moment donné, j'imagine. Donc je le regarde, je garde en ligne de mire, mais par contre pour l'instant, mon objectif, c'était de rester dans les six de général. J'y suis. J'aimerais bien gratter encore une ou deux places, mais je ne serais pas déçu si le globe il n'est pas là à la fin de l'année.
Bon, tu nous l'as dit, Lou, on sait que tu es fatigué, on ne va pas trop prendre de ton temps. Parle-nous un petit peu de cette ambiance au sein de l'équipe de France durant l'intersaison et avec Marion dans les différentes émissions, dans Bartoli Time, dans les grandes gueules du sport. C'est vrai qu'on en a parlé de cette intersaison mouvementée avec des affaires extrasportives. Comment aujourd'hui vous vivez ensemble? Est-ce que tu as senti un apaisement? Déjà, il y a eu pas mal de succès au début de la saison et puis là, c'est mondiaux. J'imagine que ça permet de faire corps.
Ben, alors c'était compliqué, mais je pense que le fait que ce soit dit rend les choses plus simples, dans le sens où je pense qu'il y a des conflits dans n'importe quel groupe de biathlon, de boîte, de n'importe quoi. Et nous, en fait, on est au courant. Tous les problèmes sont écrits, couchés sur le papier. Et je pense que ça aide un peu à dire bon bah ça c'est là, ok, maintenant on passe à autre chose. Et ouais, après on est des adultes, on est là pour faire du beau sport. Et puis je pense que on est toutes assez grandes et assez fixées sur nos objectifs pour ne pas se concentrer là-dessus.
Bah, vous le faites bien, le beau sport. Une dernière question, Marion, rapidement.
Oui, une dernière question pour moi. Hormis te reposer, Lou, parce qu'on a bien compris, effectivement, tu as besoin de repos, on peut te souhaiter quoi pour la fin de cette saison? Des bains sur
Mont Tir. Belle neige, quand même. J'ai très envie de voir de la belle neige, un truc blanc qui n'est pas plein de flotte et noir.
Tu nous conseilles un endroit ou pas? Est-ce que tu as un endroit à nous conseiller si on veut trouver de la belle
je
neige?
Je ne sais pas, j'en ai pas un sous le coude. J'espère qu'aux US, ils en ont un petit peu. Et en tout cas, c'est vraiment ce que j'ai envie de voir.
Bon, plus de bouillie, on a bien compris.
Et c'est ça, exactement.
Merci beaucoup, Lou Jean Monod, d'avoir été avec nous. Et encore félicitations pour ces quatre médailles, dont celle en bronze aujourd'hui. Merci d'avoir été en direct sur RMC dans Bartoli Time. Et merci à Léna Marjac d'avoir assuré ce duplex. Il est 19h43, nous allons revenir dans quelques instants. Bartoli bastonne la polémique Nadal. Marion, tu vas prendre sa défense. A tout de suite sur RMC, restez bien avec nous. Un point tout de même sur notre direct en cours. Et c'est la finale de la Leaders Cup. Jérémy Donzé entre Paris et Nanterre.
Avec du suspense, j'y sais dans cette finale de Leaders Cup à l'Arena Saint-Etienne Métropole de Saint-Chamond. Paris est toujours devant dans cette partie, mais deux petits points d'avance seulement face à Nanterre. 63-61. Nanterre qui revient bien dans cette partie. On est en fin de troisième quart-temps. Il reste 2 minutes 50 à jouer dans cet avant-dernier quart-temps avec les 17 points notamment de Justin Bibbins. Deux points d'avance pour le Paris Basket dans cette finale de Leaders Cup.
Justin Bibbins?
Exactement.
C'est pas Justin Bieber.
C'est pas du tout. C'est pas un diminutif. Il s'appelle vraiment comme ça.
Justin Bibbins. Tout
très
à
bien.
Fait.
On va parler aux parents quand même. 19h44. On se retrouve dans quelques instants. Merci Jérémy. La polémique. Raphaël Nadal avec Marion Bartoli. À tout de suite.
RMC. Jusqu'à 20h. Bartoli Time. Jean-Christophe Drouet. Marion Bartoli.
19h46, de retour dans Bartoli Time sur RMC. C'est la dernière ligne droite, c'est le moment où je rentre dans l'arène. C'est le moment où je vais me bagarrer, n'est-ce pas, JC?
Exactement, tu vas prendre le pouvoir de ton émission et surtout entrer dans un débat qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup fait parler en Espagne. C'est la polémique autour de Rafael Nadal. Mais on en parle dans quelques instants, juste vous donner le programme, évidemment, à partir de 20h, Gilbert Bribois, la grande soirée autour de Brest, Marseille, coup d'envoi 20h45. Ne manquez pas cette très, très belle soirée et l'after en direct de Brest du Stade Francis. Le blé, tout de suite, la bagarre.
RMC. Bartoli Bastone.
Alors Tolé, en Espagne, après une interview de Rafael Nadal à la chaîne de télévision espagnole La Sexta, Nadal a été interrogé sur l'égalité sportive entre les hommes et les femmes. Et l'ex-numéro 1 mondial a déclenché une polémique lorsqu'il a voulu parler de l'égalité salariale. Pour lui, ça ne doit pas être systématique. Rafael Nadal.
Ce que je n'aime pas faire, c'est être hypocrite et de dire des choses sans les penser. Entre les hommes et les femmes, il doit y avoir les mêmes opportunités. Le même salaire, ça non. Mais pourquoi? Ce n'est pas ça que je trouve le plus injuste. Le plus injuste, c'est quand il y a une inégalité sur les opportunités. Si vous me dites que les hommes et les femmes doivent être égaux et méritent les mêmes choses, alors je suis féministe. J'ai une mère et une sœur, mais vous savez, parfois ce cheminement amène aussi à un extrême. Pour moi, l'égalité ne réside pas dans le fait de donner l'égalité. Réside dans, par exemple, si Serena Williams génère plus d'argent que moi, alors je veux qu'elle gagne plus que moi.
Serena Williams génère plus que moi. Je veux que Serena gagne plus que moi.
Alors je le disais, ça fait beaucoup parler en Espagne et notamment cette expression qui a été reprise de nombreuses fois dans cette interview. J'ai une mère et j'ai une sœur. Le quotidien El País avec un édito s'est moqué de Rafael Nadal. Je cite, ce moment est magnifique quand Nadal dit qu'il a une sœur et une mère. Espérons un ami gay, un voisin noir et nous aurions le forfait tout compris du gentleman pas encore déconstruit. Fin de citation. Marion, tu veux défendre Rafael Nadal, que tu connais bien, et je sais que tu es aussi assez proche de son entourage.
Exactement. Tout d'abord, effectivement, Rafa, je le connais depuis qu'il a l'âge de 17 ans. Donc, ça fait plus de 20 ans qu'on se connaît, et je connais aussi ses valeurs et ce qu'il défend. Déjà, pour commencer, quand il a voulu dire qu'effectivement, il avait une mère et une sœur, il a d'ailleurs cité, parce que ça a été... l'interview fait une heure au total. Donc là, on prend des morceaux raccourcis. Il a dit ça pour dire que c'était les deux personnes qu'il aimait le plus au monde, certainement avec beaucoup d'émotions, pour décrire le fait que oui, bien évidemment, il défendait que les hommes et les femmes aient la même capacité à avoir des opportunités égales dans leur travail respectif, mais qu'en revanche, la méritocratie salariale, qui est un des piliers d'ailleurs du féminisme, elle n'était pas obligatoirement liée directement au genre de quelqu'un. Je m'explique. Ce n'est pas parce que une femme, par exemple, va être meilleure qu'un homme dans son domaine qu'elle doit toucher moins et être à égalité salariale avec un homme. L'exemple qu'il prend de Serena Williams, pour en avoir parlé avec son entourage il y a quelques minutes avant de prendre l'antenne ici dans cette émission, pourquoi il le prend ? Il le prend en disant qu'effectivement Serena Williams est plus connue que lui aux États-Unis, qui a un marché aux États-Unis qui est encore plus important qu'en Europe, et que donc par les revenus qu'elle génère, même en dehors du terrain par tous ses sponsors, au final elle va gagner plus d'argent que lui. Et que donc cette méritocratie salariale, du fait qu'elle soit entre guillemets meilleure que lui, quand on parle de meilleure, c'est pas uniquement d'un niveau tennistique sur le terrain, mais dans ce qu'elle est capable de générer, de vendre, d'image, etc. Ça, c'est normal pour lui qu'elle touche plus d'argent. Moi, ce que je comprends parfaitement dans ce qu'il dit, c'est que on ne peut pas dire, parce qu'on est une femme, la méritocratie salariale, elle est directement, entre guillemets, offerte...
et appliquée.
Et appliquée. En revanche, qu'on continue à se battre pour que le tennis féminin, effectivement, soit rémunéré à sa juste valeur, et c'est le cas par tout ce qui a été fait depuis Billie Jean King, Venus Williams, etc., etc., et 50 ans où on s'est battu pour que le tennis féminin ait de plus en plus de rémunération, et encore une fois, on le voit aujourd'hui, Serena Williams a gagné plus d'argent que Rafael Nadal par les cumuls en dehors du terrain. Donc, on y est arrivé. Mais je comprends ce qu'il veut dire dans le fait de dire que cette rémunération, elle n'est pas, entre guillemets, offerte en cadeau, et ça serait même dénigrer les femmes de se dire que oui, quoi qu'il arrive, entre guillemets, chacun sa même rémunération. Je prends un exemple tout bête parce que c'est dans l'actualité. Effectivement, Taylor Swift, qui actuellement fait son Eras Tour, elle génère 1,82 milliard. Elle a dépassé Ed Sheeran, Coldplay, Elton John. Ouais, pourquoi on dirait c'est une femme et donc du coup, il faut la redescendre, entre guillemets, en termes de rémunération parce qu'il faut que tout le monde soit à égalité. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc en fait, c'est de se dire qu'il y a des situations où effectivement, à égalité de compétences, malheureusement, et ça continue à être le cas, les femmes ne sont pas rémunérées autant que les hommes. Et je pense que Rafa est totalement pour le fait qu'à compétences égales, chacun ait une rémunération commune, mais qu'entre guillemets, c'est pas parce que vous êtes joueuse de tennis qu'obligatoirement vous avez touché la même chose, que vous soyez numéro 1 mondial ou numéro 50. Donc cette méritocratie salariale,
c'est ça qui est assez dingue dans cette polémique, c'est que je pense que tout le monde entend ton discours, mais il vient d'une femme, il vient de toi, et tu es joueuse de tennis, et tu sais de quoi tu parles. Là, c'est Rafa Nadal, ce qui me surprend. On sait que la société espagnole avance très vite, elle se veut très progressiste, notamment sur ces questions d'égalité homme-femme. Mais on sait aussi que Rafa Nadal, c'est une icône là-bas. Comment tu expliques qu'il y a un déferlement sur sa personne aujourd'hui, et comment son entourage l'explique? Est-ce qu'ils sont gênés aujourd'hui, toi qui les as eus avant cette émission?
Effectivement, je les ai eus avant cette émission. Le message qu'ils m'ont transmis, c'est le suivant. Tu l'as dit, Rafa est une personnalité immensément reconnue en Espagne, et donc il y a une récupération politique de son discours. Ce qui est vraiment malheureux parce que les sportifs ne sont vraiment pas là pour faire de la politique. Et qu'effectivement, El País étant quand même un journal plutôt très orienté à gauche, on fait une caricature de ce qu'il a dit en récupérant un morceau sur une interview, encore une fois, qui a duré une heure. Je trouve ça extrêmement dommageable parce que pour avoir repris plusieurs interviews de lui sur des tournois précédents, et en particulier, c'est une question qui revenait systématiquement quand il jouait le tournoi de Madrid, chez lui, qui est un gros Master 1000 avant Roland-Garros, où il disait en conférence de presse, je vais même plus finir par parler de cette question parce que mes mots et mes phrases sont tellement détournés uniquement pour faire des clics et vendre du papier parce que voilà, c'est Raphaël Nadal et qu'est-ce que soit ce qu'il va le déclarer, forcément on va lui tomber dessus d'une manière ou d'une autre. Pour moi, c'est quelqu'un, je peux vous l'assurer, je l'ai côtoyé pendant plus de 20 ans, je l'ai interviewé à de très nombreuses reprises sur le tournoi de Roland-Garros et j'ai joué les mêmes tournois à lui pendant 15 ans. Plus intègre, plus gentil, plus humble, plus respectueux, ce n'est pas possible de trouver. Il n'a jamais, par exemple, on a souvent été, il était avant moi sur un terrain d'entraînement ou après moi sur un terrain d'entraînement, il n'a jamais, entre guillemets, fait valoir le fait qu'il avait déjà gagné, je ne sais pas, 8, 9 fois Roland-Garros quand je jouais encore, en disant, bon, allez, Marion, vas-y, laisse-moi le terrain, il me reste plus de 2-3 minutes d'entraînement. Voilà, exactement, c'est quelqu'un qui a toujours été extrêmement respectueux du tennis féminin, qui a toujours défendu le tennis féminin, alors que souvent par d'autres hommes, et je ne vais pas les citer, mais le tennis féminin était raillé en disant qu'entre guillemets, parce qu'on jouait moins longtemps que les hommes, on ne méritait pas d'avoir le même prix que Antoine du Grand Chelem. Il n'a pas du tout défendu ça. Donc pour moi, ce sont des propos où il a voulu parler de la méritocratie salariale en disant qu'effectivement la méritocratie salariale c'était quelque chose qui pouvait aller dans un sens comme dans un autre, c'est-à-dire que pour lui ça ne dérangeait pas du tout que Serena Williams gagne plus d'argent parce qu'elle méritait de gagner plus d'argent par tout ce qu'elle représente et sur un marché qui est plus important qu'en Europe. Et, mais qu'ensuite, ça pouvait être à l'effet inverse et qu'on n'était pas obligé d'être tous à égalité.
Exactement.
En revanche, et ça c'est important de le préciser, il a parlé d'égalité d'opportunité, et là je suis complètement d'accord avec lui, et ce n'est pas encore le cas. Quand on regarde les situations qu'on a actuellement, par exemple, je prends l'exemple du tennis, on n'a pas autant de tournois chez les filles que chez les garçons.
Oui, mais le tennis a fait beaucoup plus d'efforts que n'importe quel autre sport quand même. Hein,
mais bien sûr, mais ça il faut le préciser quand même.
D'ailleurs, un dernier mot avec toi, parce que cette interview portait aussi à la base sur son nouveau rôle d'ambassadeur de la Fédération saoudienne de tennis, et ça a pu faire grincer un petit peu des dents. Lui a déclaré lors de cette interview, je ne crois pas qu'ils m'ont signé pour laver leur image, je ne pouvais rien faire ou accepter le défi, c'est ce que j'ai fait, je suis tranquille, je connais mes motivations, je comprends les critiques, et si réellement je ne suis pas capable de contribuer à ce que les personnes aient une meilleure vie, les critiques seront justifiés, nous verrons, mais je suis enthousiaste pour le futur et par ce que je vais faire. Et c'est vrai qu'à mon avis, ce partenariat lui porte un peu préjudice aujourd'hui, non ?
C'est une accumulation, bien évidemment. Je me suis rendue en Arabie Saoudite à deux reprises extrêmement récemment. Tout d'abord à Jeddah pour commenter une partie du Masters Next Generation. Il y avait d'ailleurs deux Français avec Arthur Fils et Lucas Vanaché. Donc j'ai été sur place, je me suis rendue compte de ce qui se passait, de comment était organisé le tournoi, des personnes qui venaient voir dans les gradins, de comment elles étaient habillées, enfin de comment un pays vit tout simplement. Et ensuite à Riyad où il y avait une très grosse exhibition entre un match entre Ons Jabeur et Aryna Zabalenka et le lendemain un match entre Novak Djokovic et Carlos Alcaraz. Aujourd'hui, un match entre Ons Jabeur et Aryna Zabalenka, l'enceinte était quasiment pleine, il y avait 90% des sièges qui étaient occupés, et le lendemain pour le match entre Alcaraz et Djokovic c'était complètement plein. J'ai vu énormément d'enfants, de jeunes filles venir voir les matchs.
Mais c'est ce qu'il dit, hein. Il veut faire progresser la société et donner aux enfants l'occasion de jouer. D'ailleurs il a dit, je n'ai pas signé un contrat de multimillionnaire avec l'Arabie Saoudite, je vous le jure, ça ne va pas améliorer ma vie.
Exactement, non, surtout avec la fortune qu'effectivement a Rafael Nadal. En plus, il a une académie au Koweït, qui est un pays quand même qui est extrêmement proche, et en tout cas placé de manière régionale, d'une façon très proche de l'Arabie Saoudite. Donc tout ce qui fait un sens, mais quand je vois aujourd'hui le développement du tennis avec Riyad qui va très certainement accueillir le Masters féminin de fin d'année WTA, de plus en plus de jeunes filles qui désirent faire du tennis. Aujourd'hui, le tennis est inscrit dans le curriculum scolaire des enfants en Arabie Saoudite, donc ils peuvent choisir le tennis comme sport scolaire avec des terrains de tennis qui sont installés soit dans leur école, soit des clubs de proximité qui sont extrêmement proches, on les amène en bus pour qu'ils jouent au tennis. Dans un cadre global d'un pays qui a envie de s'ouvrir à un sport où effectivement c'est un ambassadeur reconnu dans le monde entier, je vois pas ce qu'on peut lui reprocher. Après qu'il n'ait pas une ingérence dans la politique d'un pays, c'est une évidence, mais on sait très bien que l'ouverture d'un pays passe par le sport également.
19h58, Marion a voulu défendre Raphaël Nadal. Vous pouvez aller réécouter cet extrait en podcast si vous venez tout juste de nous rejoindre. Dans deux minutes, restez bien avec nous. Gilbert Bribois va reprendre l'antenne pour cette rencontre magnifique, l'After Live autour de Brest, Marseille, coup d'envoi 20h45. Merci Marion, passe une belle soirée.
Merci JC, merci à vous mes chers auditeurs, merci à Lai d'avoir appelé le 32-16, je vous souhaite bien évidemment un très bon match ce soir, continuez à écouter RMC, et puis moi je vous retrouve avec un immense plaisir la semaine prochaine, même heure, même endroit, 19h sur RMC, au revoir.